J'espère que vous entendez bien. Voilà. Donc, merci Seigneur pour cette journée encore qu'il nous donne et qu'il nous permet, malgré le temps, de pouvoir ensemble nous retrouver pour continuer à nous exhorter et à nous donner cette joie et cette possibilité d'être entouré et d'être aimé pour suivre notre Seigneur Jésus. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse rappeler tout simplement le dimanche passé ce que nous avons pu avoir comme méditation et ensuite je pourrais donner la suite. Qu'est-ce qu'on a vu dimanche dernier? Ambassadeurs de l'espérance. Tous sont ambassadeurs de l'espérance là où Dieu nous a placés. Et l'ambassadeur doit tenir compte des trois choses. De sa dignité, parce que Dieu lui a donné une dignité. Celui qui l'envoie lui a donné cette dignité et cela ne dépend pas de lui. C'est Dieu qui lui a offert gratuitement, gracieusement, son identité. Ensuite,
sa motivation.
L'ambassadeur doit être toujours motivé par l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est l'amour. C'est aussi la crainte de Dieu. Ça doit être toujours dans le cœur, au fond du cœur de l'ambassadeur de Christ. Et ensuite, il doit transmettre un message. L'ambassadeur est allé pour transmettre un message pour que de son pays, venant de son pays. Donc nous aussi, en tant qu'ambassadeurs que Dieu nous a envoyés dans ce monde, le monde a besoin de recevoir le message que Dieu nous a transmis, nous a donné, c'est-à-dire l'évangile du salut, l'évangile de la grâce et l'évangile qui relève, l'évangile de l'espérance. Voilà ce que nous avons pu voir, récapituler un peu ce que nous avons vu dimanche passé. Et merci beaucoup parce que je sais que nous suivons bien dimanche après dimanche ce que le message que le Seigneur nous donne et surtout nous vivons cela partout où nous sommes. Aujourd'hui, pour faire suite à notre prédication dimanche dernier, j'aimerais nous partager ce qu'est aussi l'Église. Parce que l'ambassadeur est envoyé par un pays, c'est-à-dire ça peut être le Seigneur qui l'envoie, mais l'ambassadeur part toujours d'un pays. Et nous pouvons constater, considérer l'Église comme son lieu d'envoi. Et lorsque l'Église ou le pays qui l'envoie n'est pas en bon état, est confronté à des difficultés, à des problèmes, ça peut véritablement être un problème aussi pour l'ambassadeur lui-même. Donc, aujourd'hui, j'aimerais qu'on partage un texte qui va parler un peu de l'Église comme un avion, comme un navire, un bateau dans lequel nous sommes tous. Et dans les navires, il y a le pilote, il y a aussi l'équipage, il y a aussi tous ceux-là qui sont dans le navire comme des passagers. Imaginons que vous rentrez dans votre avion pour voyager. Vous arrivez dans l'avion et une voix sonore vous accueille. Bienvenue dans l'Airbus 747. J'aimerais vous préciser qu'il n'y a pas de pilote, il n'y a pas de copilote, il n'y a pas d'équipage, il n'y a pas de mécanicien, il n'y a personne vraiment qui s'occupe de l'avion. Mais rassurez-vous que vous allez arriver en bonne forme. Vous ne vous inquiéterez de rien, parce que tout sera servi et l'avion arrivera à bonne destination. Que pensez-vous? La peur, l'inquiétude. Qu'est-ce qui va se passer? S'il y a un problème dans l'avion, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas de mécanicien. Il n'y a pas de pilote pour essayer de régler la pression ou l'altitude. S'il y a un danger, comment on fait? Et je parle comme une fiction, mais c'est ce qui est en train de se mettre en place dans les futurs avions que nous allons emprunter. Mais ça crée des doutes et des difficultés en même temps. C'est vrai que l'informatique est bien exact, il n'y a pas de si ça marche, ça marche, mais si ça rate aussi, ça rate bien. C'est pourquoi, en comparant avec l'Église, nous voyons que dans l'Église, nous avons certainement des dirigeants, des gens qui gouvernent l'Église. Dieu a placé des gens qui vont s'occuper de l'Église. Dieu a placé des pilotes, des copilotes, et Dieu a placé de l'équipage aussi, des personnes qui sont là, qui veillent et qui travaillent ensemble en équipe pour que le bateau puisse arriver à bonne destination, sain et sauf, et que la gloire revienne à notre Dieu. Nous allons lire 1 Corinthiens 12, versets 28 à 31. Et après, nous essaierons de tirer profit dans cette méditation. De 1 Corinthiens 12, versets 28 à 31. C'est ainsi que Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants, puis viennent les miracles, les dons de la grâce sous la forme de guérison, l'aide, la direction d'église, les langues inconnues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous sont-ils des miracles? Tous sont-ils des dons de la grâce sous forme de guérison? Tous parlent-ils dans des langues inconnues? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons de la grâce les meilleurs. Pour cela, je vais vous indiquer l'approche par excellence. Nous voyons que Paul, dans ce chapitre de 1 Corinthiens 12, va parler beaucoup de l'Église dans son fonctionnement, dans sa façon d'administrer, afin de permettre que l'Église puisse grandir harmonieusement avec les dons que Dieu a donné, a fait à l'Église. Après avoir parlé du fonctionnement général de l'Église, des dons, il va maintenant passer à partir du verset 28 à ce que l'Église, le fonctionnement de l'Église en tant que corps et le fonctionnement de l'Église avec ceux surtout qui dirigent l'Église. C'est pourquoi nous avons pris l'exemple du bateau, du navire, l'Église comme un bateau, un navire ou un avion qui prend son décollage pour aller dans une destination donnée, c'est-à-dire l'éternité. Le corps forme un tout sans division dans la réciprocité du fonctionnement. Cependant, ce corps a besoin d'une direction, d'un but pour exister. Si le corps n'a pas de but, n'a pas d'objectif, son existence ne peut être certifiée. Le corps existe parce que il a un but, parce qu'il a un objectif à atteindre. Et c'est pourquoi Paul va nous donner un cadre dans lequel les dons peuvent s'exercer, les ministères peuvent s'exercer. Aujourd'hui, nous allons souligner spécifiquement le ministère de gouverner pour faire suite à notre message en tant que tous ambassadeurs, mais quelques-uns Dieu a placés dans l'Église pour prendre soin de l'Église, pour gouverner l'Église. Comme vous l'avez remarqué tout à l'heure, si vous arrivez dans un avion où il n'y a pas de pilote, il n'y a pas de mécanicien, personne ne s'occupe de l'avion, la première des choses, c'est la peur, parce que vous ne savez pas le danger que vous pouvez risquer. Et dans l'Église aussi, s'il n'y a pas de responsable, s'il n'y a pas des gens qui dirigent l'Église, l'Église va vraiment aller dans sa décadence. Si Dieu a donné des prophètes, des apôtres, des enseignants, des diacres, et des responsables, plusieurs responsables à l'Église primitive, c'est qu'ils savaient bien que c'est bien pour son Église. C'est une bonne chose pour son Église. C'est pour le bien, la bonne santé de son Église. Et le mot, souvent, a créé des polémiques ou des débats dans l'Église. Et j'aimerais pas rentrer dans le débat ce matin, mais juste nous donner une définition du mot gouverner en grec, qui veut dire kybernéseis, qui est employé par les Grecs, qui est la langue des Grecs, et ils emploient ce mot juste pour dire le capitaine ou le pilote du navire qui gouverne, qui dirige le bateau, qui conduit le bateau à une destination sûre. L'utilisation du mot par les Grecs eux-mêmes, et maintenant le Nouveau Testament va prendre ce mot pour désigner ceux qui dans l'Église sont des administrateurs, ceux qui administrent l'Église. Mais l'administrateur, ce n'est pas vu comme dans le monde moderne. Si on dit quelqu'un est administrateur ou une dame est administratrice, ça veut dire qu'elle est dans un bureau ou il est dans son bureau et puis il reçoit les dossiers, il le signe, il lit et il envoie des courriers. Or, le mot administrateur est plus fort que juste être l'appellation d'administrateur selon Paul. En Actes 27, verset 11 et Apocalypse 18, verset 17, le mot est employé pour désigner le pilote du bateau ou celui qui est le capitaine. C'est pourquoi nous ne pouvons pas utiliser ce mot pour appliquer immédiatement, transposer administrateur dans le monde et administrateur dans l'Église. Parce que administrateur dans l'Église, ce n'est pas juste envoyer des courriers. Ce n'est pas juste faire le travail de bureau. C'est plus que ça. C'est réellement rentrer dans la gouvernance de l'Église, diriger la direction de l'Église, le fonctionnement, le bon fonctionnement d'une manière harmonieuse de l'Église. Les administrateurs sont des responsables, sont des dirigeants, sont ceux qui prennent soin de l'Église. Comme dans Romains 12, verset 8, il dit que ceux qui dirigent l'Église dirigent avec sérieux, avec zèle. Si nous considérons l'Église comme un navire et que c'est Christ qui est le pilote et qu'il a institué dans l'Église comme des gouverneurs, nous a institués comme des gouverneurs et comme des copilotes, là, ça peut changer notre façon de voir l'Église. Si nous croyons avec conviction que c'est le pilote en chef, Jésus-Christ, qui, avec qui dépendent les ministères, nous sommes plus vraiment plein d'espérance. Parce que l'Église, sa gouvernance ne va pas dépendre de nous, de nos propres talents, de nos forces, de nos ressources, de nos compétences, mais va dépendre du pilote en chef qui est le Christ, qui va diriger notre navire, notre bateau, notre avion à destination sûre et certaine qui est l'éternité pleine d'espérance. D'abord, pour tirer vraiment des bénéfices dans cette méditation, nous allons nous poser une question. Comment donc, en tant que pilote, pourrions-nous ensemble conduire le navire à bon port? Parce que Christ est le chef pilote, le pilote en chef, mais il a délégué des copilotes, il a délégué aussi au niveau du navire, un équipage, une équipe qui s'occupe du navire. Vous savez que dans les temps anciens, le navire à voile, il faut avoir beaucoup de personnes qui s'occupent tout simplement des voiles, les faire monter, les faire descendre et les faire tourner vers la direction du vent pour permettre que le bateau aille dans une bonne direction. Il faut aussi des personnes comme les vigies, les maîtres d'équipage, les chefs de rameurs, les officiers qui recrutent et aussi les passagers. Donc, Christ nous a permis d'être dans cette équipe-là. Peut-être vous allez dire, non, ça ne me concerne pas parce que je ne suis pas responsable dans l'Église. Oui, mais vous êtes dans l'Église. Et une fois que vous êtes dans l'Église, vous faites partie de l'équipage. Si l'équipe, le bateau ou l'avion déraille, vous en faites partie. Et vous ne pourrez pas dire, non, je ne fais pas partie des responsables, donc ça ne me concerne pas. Peut-être vous côtoyez un ami, quelqu'un qui fait partie de cet équipage. C'est pourquoi ça nous concerne tous, parce que c'est l'Église de Christ et nous en faisons partie. Donc, comment ensemble nous pouvons conduire les navires avec Christ comme chef pilote jusqu'à destination? D'abord, j'ai relevé trois éléments essentiels pour qu'ensemble le bateau ou le navire ou, comme vous voulez, l'avion puisse aller à bonne destination. Premièrement, il nous faut la confiance. La confiance. La responsabilité du pilote ou des copilotes, c'est d'amener le navire dans un endroit sûr. La confiance est celle qui caractérise le pilote pour les membres d'équipage et vice-versa. Si il n'y a pas de confiance dans le pilote, vous rentrez dans un avion et vous n'avez pas confiance à ce pilote-là. Vous pensez que ça ira mieux? Est-ce que si vous rentrez dans un avion et que les membres d'équipage avec le pilote, ils n'ont pas de confiance les uns avec les autres? Soyez-en sûr que le navire risque de faire fausse route. Même s'il peut aller n'importe où, hein, mais ça serait difficile que le navire arrive à destination là où il doit arriver. C'est pourquoi je pense, dans cette perspective de la bonne conduite, de la bonne direction du navire ou de l'Église, il nous faut la confiance premièrement du Seigneur, parce que le Seigneur nous a fait confiance pour nous placer dans l'équipage, parmi les passagers et parmi dans le navire. Ça, Dieu nous a délégué cette confiance. Mais est-ce que nous, aujourd'hui, maintenant, nous avons la confiance des uns envers les autres? Sans confiance, c'est difficile d'aller plus loin. C'est difficile de travailler en équipe. C'est pourquoi Paul a dit quelque part que c'est Dieu qui a institué premièrement. C'est Dieu qui a institué. Est-ce que nous sommes confiants que Dieu a institué dans l'Église une gouvernance? Et si c'est Dieu qui a institué dans l'Église une gouvernance, sommes-nous prêts à faire confiance les uns et envers les autres? Pour savoir que je suis sûr que celui qui va tourner les cordes va les tourner à la bonne direction. Parce que nous voyons un rocher en face et le commandant en chef a dit « Attention, il y a un rocher en face. Travaillez rapidement pour mettre les voiles de l'autre direction. » Et les voiliers disent « Non, il faut qu'on mette les voiles de l'autre côté là. Sinon, ça ne va pas marcher. » Nous pensons que le bateau va faire fausse route. C'est pourquoi j'aimerais nous interpeller que la confiance n'est pas aveugle. Bâtie sur la foi, la lucidité, même quand il y a des tempêtes, l'équipage doit être totalement serein. L'équipage doit être serein et vigilant en disant, voilà, il y a la tempête, mais on garde notre calme. Et on écoute attentivement les uns les autres. Qu'en pensez-vous de cette tempête? Qu'en pensez-vous des vagues, des flots de vagues qui montent? Et là, on va s'asseoir, s'écouter les uns les autres et dire, prenons la direction de l'est ou la direction de l'ouest pour pouvoir échapper à cette tempête. La confiance est aussi de permettre que tous ceux qui sont dans l'embarcation soient sécurisés et en permettant que tout l'équipage fonctionne harmonieusement. La confiance permet de travailler harmonieusement. Non seulement la confiance nous permet de travailler en équipe, en écoutant les uns les autres, mais la confiance nous permet de travailler harmonieusement. Parce que nous savons, nous pouvons compter les uns sur les autres. L'apôtre peut compter sur l'enseignant, l'enseignant peut compter sur le diacre, et ainsi de suite. C'est ce que Paul a dit, comme le corps fonctionne. La façon dont le corps fonctionne, c'est la même façon que les ministères fonctionnent au sein de l'Église. Il n'y a pas un ministère qui travaille à contre-courant d'un autre ministère. Les ministères sont des compléments qui complètent les uns les autres afin que l'Église fonctionne harmonieusement. Et donc, pour fonctionner harmonieusement, nous avons besoin de la confiance les uns envers les autres. La confiance est bâtie aussi quand tout l'équipage est au clair que personne n'est le propriétaire du navire. Nous sommes juste des pilotes, des copilotes dans l'équipage. Personne. Le navire n'appartient à personne. Le navire appartient à Dieu seul. C'est lui qui est le maître du du navire, le propriétaire du navire. Et lorsque nous sommes vraiment, nous avons assimilé cette réalité que l'Église appartient à Christ. Je travaille en étant conscient que l'Église appartient à Christ. L'Église n'appartient pas à un homme. L'Église n'appartient pas à l'apôtre ou à l'enseignant ou au diacre. L'Église appartient à Christ et à Christ seul. La confiance permet de surmonter les obstacles. La confiance vient dans la persévérance aussi. Quand nous traversons ensemble des tempêtes et que nous pouvons compter les uns sur les autres, c'est là que la confiance arrive. Ah oui, je peux avoir confiance à tel frère, à telle sœur, parce que même si la tempête se lève comme l'ouragan, ah, il est là, il est prêt. Amen. Ça, c'est la confiance qui est construite jour après jour. Dans la tempête, dans les difficultés, on voit que la personne est là dans la fidélité, dans l'engagement, et réellement, il est une personne sur qui on peut compter totalement. Donc, la confiance nous permet de surmonter les obstacles. Le pilote a besoin du matelot, des matelots, et celui qui s'occupe de l'ancre, celui qui s'occupe des câbles, et celui aussi qui s'occupe des cordages dans le navire. Le pilote n'est pas seul. S'il est seul, même les passagers doivent avoir peur. Parce que le pilote seul ne peut pas tout faire. Il faut des personnes dans l'équipe pour l'aider à accomplir sa tâche. Deuxième élément, rapidement, c'est la compétence. Nous allons voir que l'utilité de la compétence. Pour être pilote, on ne peut pas se lever un jour comme ça et dire « je suis pilote ». Vous aurez du mal à rentrer dans cet avion-là. Il se lève et dit, aujourd'hui je vais être pilote. Il arrive, allez, monsieur le commandant, c'est moi qui prends l'avion aujourd'hui. Vous devez avoir peur. Parce que il faut un peu de connaissance sur l'appareil, sur la météo, sur comment fonctionnent les courants d'air, comment fonctionne l'altitude, comment fonctionne la pression, sinon, et même comment fonctionnent les radars, la transmission avec la tour de contrôle, sinon tu vas faire fausse route. Et là intervient la compétence. La compétence est nécessaire, même s'il y a certains aujourd'hui qui opposent la compétence avec l'action de l'esprit. Oui, tous les deux sont importants avec l'action de l'esprit. Un capitaine a besoin de savoir les saisons, a besoin de savoir les lieux où se trouvent les grands rochers. Il a besoin de savoir à quel moment il y a des tempêtes, à quel moment il doit partir, à quel moment il doit faire un arrêt, à quel moment il doit descendre les voiles et à quel moment il peut profiter des vagues ou du vent. L'acceptation de l'autorité du pilote ou des copilotes est le but. Complète donne la force à la compétence. Si le pilote a des compétences, il connaît les saisons, il connaît la météo, il connaît son appareil, il connaît tout ce qui doit permettre à l'appareil, à l'avion ou au navire de fonctionner. Et finalement, il n'est pas écouté. Je pense que toute cette compétence n'aura aucune valeur. La compétence peut avoir de la valeur lorsque l'équipage tout entier écoute le pilote ou le copilote. Dans l'avion, par exemple, je prends un exemple, la tour de contrôle envoie un message et le pilote reçoit 767 en disant « Oui, j'ai bien reçu, nous allons travailler à ce que le navire ou le bateau prenne cette direction. » Et finalement, il donne la possibilité à son équipage de travailler pour répondre au message. Et finalement, rien n'est fait. Vous pensez que même si le pilote est compétent, même si le capitaine est compétent, est-ce que le navire aura exécuté le message reçu du tour de contrôle? Non, il ne pourra pas. Donc c'est pourquoi il est important d'avoir de la compétence, de chercher à avoir de la compétence, mais aussi à savoir est-ce que la compétence peut être associée à la soumission, à l'obéissance, à ce que réellement le bateau ou le navire puisse avancer sereinement dans la direction que Dieu lui a donné. Hébreux 13, verset 17, nous le dit. Hébreux 13, verset 17, « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vous en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service. Qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leurs tâches avec joie, et non pas en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous sommes convaincus d'avoir une bonne conscience, puisque nous sommes résolus à bien nous conduire en toute occasion. Je vous demande tout particulièrement de prier pour que je vous sois bien vite rendu. » Et nous voyons ici Paul qui intercède. Malgré sa compétence, qu'il a été formé au pied de Gamaliel, qu'il a parcouru le monde en mission, malgré les lettres qu'il a écrites avec inspiration du Seigneur, il s'est dit que si cela que j'écris, cela que je sers, cela que je sers avec Dieu, s'il ne sont pas soumis, s'ils ne sont pas obéissants, s'ils n'obéissent pas à ce que Dieu veut, ça ne sert du tout à rien. L'utilité de la compétence rime avec la soumission, l'obéissance et aussi l'acceptation que dans l'Église, il y a des responsables. Et ces responsables veillent sur l'harmonie de l'Église et de son bon fonctionnement. L'importance maintenant de l'équipement de l'esprit. Souvent, on a beaucoup opposé. Non, moi, je n'ai pas besoin de compétences. L'esprit, ça suffit. L'esprit fait tout. Il y a pas de souci. L'esprit enseigne. L'esprit donne les dons. On ne doit pas opposer les deux. Parce que les dons spirituels sont là pour permettre que nous puissions réellement accomplir la mission que Dieu nous a donnée. Dans l'Église, il y a aussi une nécessité d'acquérir certaines connaissances de ce qu'est, par exemple, l'Église. Tu as des dons spirituels, mais tu ne sais pas ce qu'est l'Église, le fonctionnement de l'Église. Qu'est-ce qui va se passer? C'est comme un pilote qui a toutes les compétences, mais qui oublie d'étudier même l'avion en tant que tel, le fonctionnement ou le navire en tant que tel. Si tu as les compétences et tu oublies le fonctionnement de l'Église ou le fonctionnement de l'Église, tu risques de ne pas avoir toutes les réponses au niveau de ta compétence. Parce qu'il y a des risques. Dans la mer, ce n'est pas un chemin tout tracé. Il peut soulever un vent inattendu, un coup, boum. Et en ce moment, qu'est-ce que tu fais? Et là, il y a nécessité de mettre les deux ensemble. La compétence et aussi compter sur la grâce de Dieu. Parce que la compétence fait partie aussi de la grâce de Dieu. Ensuite, l'importance de la souplesse. Entre la formation et la mise en œuvre de nos responsabilités en tant que copilote avec le Christ, il nous faut toujours de la souplesse, savoir discerner quand et comment mettre notre connaissance en œuvre. La connaissance que Dieu nous a donnée, il faut discerner le temps, comment le mettre en application. S'adapter au changement de la mer ou des airs en fonction de la météo, savoir s'adapter, adapter notre direction, la vitesse, et être toujours vigilant pour éviter les surprises. La souplesse est importante dans l'Église. Si nous avons la compétence, nous avons été équipés par le Saint-Esprit, et que la souplesse manque dans notre équipement, nous risquons d'appliquer à la lettre ce que nous avons appris au mauvais moment, et ça peut causer plus de dommages. Nous sommes toujours dans la métaphore de l'avion. L'avion, il a bien étudié, il sait que, voilà, à tel moment, il faut actionner tel bouton, il faut calculer la vitesse, il faut diminuer la vitesse, il sait tout ça dans sa connaissance. Mais souvent, l'avion peut être dans une situation où il n'a pas appris ça dans sa connaissance, il n'a pas ça. Et ça arrive souvent. Et les meilleurs qui arrivent, c'est ceux qui arrivent à s'adapter. À dire, j'ai tel problème, donc j'essaie de m'adapter en fonction du moment ou des circonstances que j'ai pu rencontrer. Et c'est la même chose dans l'Église. Dans l'Église, notre Église doit apprendre à s'adapter aux circonstances. Par exemple, la pandémie n'a rien dit avant de venir. Il n'a même pas prévu. Il est venu un coup dimanche, on nous appelle, on dit, il n'y a pas de culte demain. Et là, bam, la nouvelle est tombée comme ça. Comment on fait? Allez, on s'adapte. On va installer Zoom. On va essayer de donner les liens et on va continuer comme ça en attendant que les choses s'arrangent. Gloire à Dieu, c'est de l'adaptation. Et aussi, il y a beaucoup de circonstances sur lesquelles nous pouvons nous adapter. Sinon, nous serons considérés comme des personnes à part, une communauté à part. Dans le monde actuel, le monde change. Ça ne veut pas dire qu'on épouse directement le changement du monde. Mais il faut qu'on soit toujours dans le mouvement du monde sans diluer le message que le Seigneur nous a donné à transmettre. Que le Seigneur nous donne la souplesse aussi dans nos activités. Quand nous voyons quelque chose, ça, on ne peut pas le faire à telle période, on va le faire à telle période, que nous soyons prêts à vraiment être souples. La souplesse, c'est comme de l'huile dans les rouages du moteur de l'avion. Ça permet au bon fonctionnement en équilibre du moteur. Quelqu'un disait, John Guston disait ceci. C'est le souffle de l'esprit qui fait avancer l'embarcation. Mais si les responsables dans le navire ne tiennent pas compte d'une main, ne tiennent pas d'une main ferme là-bas, la dérive guette. Le danger est grand que les contre-courants des émotions et des ambitions humaines qui ne sont jamais enfouis très profondément ne viennent infléchir la course du bateau. Lui, il pense que l'esprit est celui qui donne le souffle à l'Église de pouvoir avancer et d'accomplir sa mission. Mais les responsables doivent tenir ferme là-bas, la barre du navire. Parce qu'en même temps que l'Esprit de Dieu donne un souffle au navire, si les responsables ne tiennent pas ferme la barre du navire, le navire va s'avirer et prendre une mauvaise direction. C'est pourquoi il remonte en disant que, en fait, il y a des contre-courants, des émotions, il y a des ambitions humaines. Et ces ambitions humaines et les émotions ne sont pas enfouies très profondément. Et à un moment donné, ces émotions et ces ambitions personnelles humaines peuvent donner un coup et une mauvaise direction au navire. La compétence. Et troisième élément essentiel aussi pour conduire le navire, c'est la conscience. Prendre conscience de l'importance de notre rôle. S'il y a quelque chose sur lequel le responsable, nous, en tant que responsables, nous ne devons pas vraiment prendre à la légère, c'est la vie des gens. Et Paul insiste toujours dans les églises, dans ses lettres, prenez soin de l'Église pour laquelle Christ a donné sa vie, a versé son sang. Et là, souvent, quand je lis ces textes-là, ça me fait trembler. Parce que la vie des gens, l'Église, c'est comme l'avion, le commandant à bord ou avec l'équipage, vous avez la vie des gens dans votre main. Et là, ça nous interpelle à avoir conscience chaque jour et chaque matin dans nos prières, nous rappeler que la vie, l'éternité de beaucoup de gens, le Seigneur nous a fait confiance pour que nous prenions soin. La notion de destination est inhérente dans le travail du pilote. Quelle est notre destination aujourd'hui? En tant que responsable, quelle est ta destination? Je pose la question à tous. Quelle est notre destination aujourd'hui? Toutes les manœuvres qui vont suivre doivent répondre à cette question-là. Si le pilote entre dans l'avion, d'abord, il enregistre la destination, il essaie de faire toutes ses manœuvres et il donne l'information à tout l'équipage. Voici cette notre destination. Il y aura quelques turbulences. Il y aura tel degré à telle destination. Et voici, nous pensons que nous allons arriver bien à destination. Et là, ça nous interpelle que si nous sommes des copilotes avec Christ, et si nous sommes responsables au sein de l'Église et nous sommes passagers dans cette navire-là, il faudrait ensemble que nous puissions avoir une bonne destination en tête, en vue. Et la bonne destination pour nous, c'est où? Alléluia. C'est timide, hein? Où est notre destination? Alléluia, c'est le royaume des cieux. C'est l'éternité, notre destination. Et donc, tous nos manœuvres, aujourd'hui, les activités, les programmes, doivent inclure cette destination-là en vue? Est-ce que ce que nous faisons, ça vise l'espérance de l'éternité? Ou ça vise des choses terrestres qui ne vont pas amener les gens à aller dans cette destination-là? La notion de destination préoccupe longuement le pilote et tout l'équipage. L'avenir, avoir un objectif à long terme, c'est ce qu'est l'Église. L'Église sans objectif, sans vision, on ne sait pas où on va, on balance à gauche, on essaie de tourner à droite, et on n'arrive pas, bon, on va un peu devant, et après on se retrouve derrière, face au mur, et finalement, le bateau est en train de faire comme ça, aller un coup à droite, un coup à gauche, un coup devant, un coup derrière, et en fait, le bateau est en train de tourner en rond. C'est pourquoi Paul va interpeller l'Église en 2 Corinthiens 5, verset 10. 2 Corinthiens 5, verset 10. Qu'il a retrouvé, 2 Corinthiens 5, verset 10. N'hésitez pas de nous lire. Voilà, on s'arrête là, merci. Nous allons être devant le trône de Dieu. Et ça, ça doit être l'objectif. Ce que je fais ici, aujourd'hui, doit déterminer par ce que je suis en train de viser. C'est devant le Seigneur, c'est l'espérance future. Ça, ça doit travailler ma conscience permanemment. Si je prie, c'est parce que, Seigneur, je t'aime et j'aimerais que mes frères et sœurs, un jour, voilà, puissent voir ton royaume. Et là, ça change tout. Si nous vivons pour nous-mêmes, nous récoltons aussi les œuvres pour nous-mêmes. Si nous vivons pour Dieu, nous récolterons aussi plus tard, dans l'avenir, dans l'espérance aussi, ce que nous avons aussi semé. Donc, l'espérance aiguise et affine notre conscience dans le travail avec Christ. Paul dit qu'il endure les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé dans la vie des Galates. Galates 5, 4, verset 19. J'endure. Je souffre jusqu'à ce que Christ soit formé dans la vie des Galates. Et là, ça pourrait aussi être l'objectif à long terme pour nous. Travailler pour le royaume, pour le salut des âmes, pour affermir, pour permettre que Christ habite pleinement dans la vie de nos frères et sœurs et qu'il puisse aujourd'hui s'épanouir dans le royaume de Christ. Avoir en conscience aussi des temps dans lesquels nous sommes. La conscience de l'éternité disparaît de plus en plus dans les églises. C'est immédiatement ou rien. Maintenant ou pas pour demain. Et là, ça change aussi nos façons de prêcher. De plus en plus, on prêche sur quelque chose qui est immédiatement, qu'on peut faire maintenant. Et l'éternité. L'éternité est l'objectif principal de l'Église. Sans l'éternité, tout ce que nous sommes en train de faire maintenant n'a aucune raison d'être. L'immédiateté des choses du monde. Les gouverneurs de l'Église se contentent simplement de divertir le navire sans objectif ni but précis. Il suffit qu'on divertisse l'Église pour contenter les gens, pour qu'ils ne soient pas fâchés. Que chacun vienne, retrouve ce qu'il veut retrouver Et voilà, comme ça, l'Église est tranquille et en paix. C'est comme les, comme on appelle les navires qui transportent les, les cargos et ceux qui visitent font le tourisme, les croisières. Voilà, merci. Comme les croisières pour les touristes, faut les animer. Il faut faire le show de la croisière pour que les gens puissent se sentir à l'aise. Et surtout, il ne faut pas les déranger, hein, parce qu'il a payé son argent. Il est là pour s'amuser. Et donc, tu ne dois pas dire quelque chose qui peut lui déranger. De plus en plus, nous rentrons dans, dans ce temps-là de la vie de l'Église où ceux qui... sont considérés comme les meilleures églises, c'est ceux qui font amuser totalement, qui permettent que les gens arrivent à bien se divertir. L'église n'est pas simplement du divertissement, c'est du sérieux. Et cette conscience doit pénétrer en nous en tant que responsables, parce que c'est l'éternité qui est en jeu. L'éternité des vies. Est-ce que nous sommes prêts pour le retour du Christ? Est-ce que si Christ arrive aujourd'hui, est-ce que l'Église de Montreuil est prête? Ça doit nous travailler. Est-ce que les frères et sœurs sont prêts pour aller à la rencontre du Seigneur? Ou bien sont-ils les cinq vierges qui ont la lampe et qui n'ont pas de l'huile? Et ça, ça doit nous préoccuper. Est-ce que tout le monde a de l'huile? Est-ce que tout le monde se prépare avec sa lampe et de l'huile? Et là, ça pourrait changer notre façon de prêcher ou d'enseigner. Pour conclure, ceux qui gouvernent l'Église locale sont les pivots du ministère de la mission de l'Église. C'est vrai, aujourd'hui, on a parlé uniquement des responsables, mais aussi, peut-être, vous êtes aussi responsables. Peut-être vous n'êtes pas responsable aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Demain, vous serez responsable. Ne vous inquiétez pas. Il y a de la place pour des responsables. Venez nous voir, parce que il manque des responsables. Au niveau de la catéchèse, il n'y a pas de moniteur. Au niveau du ménage, il n'y a pas de responsables. Au niveau de la jeunesse, au niveau de la garderie, il y a, au niveau de l'évangélisation, il y a plein de responsables à la recherche, au niveau de la musique. Je sais que à un moment, je ne voulais pas du tout être responsable. Je dis non, moi, responsable, non. Je viens à l'église. Je reste derrière, j'écoute la parole et je sors, je prends mon vélo, ma moto, je me barre. C'est bon. Responsabilité, je ne vais pas. Et j'encourageais mes amis à dire, allez-y, c'est vous les responsables. Je vais vous aider, je vais vous soutenir dans la prière et je vais, si vous avez des besoins, je viendrai vous aider. Finalement, c'est mal comprendre l'œuvre du Seigneur. Et aujourd'hui, je me rends compte que souvent, ce qu'on ne veut pas, c'est peut-être ce que veut, le Seigneur veut pour nous. Et il faut l'accepter avec joie et dans l'amour, dans la paix. Ainsi, la confiance en notre Seigneur, qu'il est le chef pilote avec nous, Il nous aidera à négocier les passages dangereux et à surmonter les bourrasques qui menacent de briser la coque pour la conduire en toute sécurité jusqu'au port éternel avec souplesse dans une conscience du but à atteindre. Amen. Christ est le chef pilote. Il va nous conduire dans sa confiance, dans la conscience et surtout pour que nous puissions arriver au but, à la destination avec assurance. Romains 8, verset 37, pour prier. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Cette certitude est là. Que cette certitude occupe nos cœurs, nos pensées, en tant que responsables et en tant que futurs responsables. Que le Seigneur nous donne cette assurance avec lui. Prions. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour la parole que tu nous as donnée. Merci pour le privilège que tu nous donnes en tant que responsable d'être copilote et aussi dans l'équipage et avec toi, Seigneur, pour conduire cette église locale vers la destination que toi-même tu as donnée. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour cette confiance et nous voulons aussi te dire merci pour cette conscience que tu nous aiguises et que tu nous rappelles chaque matin et chaque jour quand nous sommes peut-être vacillés par les vents, par les difficultés, par les vagues. Seigneur, tu nous rassures que tu es avec nous dans le bateau, tu es avec nous dans l'avion, tu es avec nous, Seigneur, dans ton Église, comme le chef qui gouverne et qui donne ton Église les dons afin qu'elle puisse accomplir la mission à laquelle elle est appelée. Seigneur, merci, parce que rien ne peut aller au-delà de ce que toi-même tu as décidé. Rien ne peut contraindre ou tordre ta volonté, Seigneur. C'est la ligne que tu as tracée, les GPS, les coordonnées du GPS que tu as données. Seigneur, Seigneur, ton navire, ton église, oui, ira dans cette direction-là pour la gloire de ton nom. Les vents, les tempêtes, oui, éternel, les vagues ne pourront dévier, oui, Seigneur, ton navire vers sa destination, Seigneur. La destination de ton église, c'est l'éternité, c'est l'avenir, c'est l'espérance. Seigneur, aide-nous à préparer ton église. Donne-nous, Seigneur, cette grâce encore renouvelée pour préparer ton Église, non seulement à l'immédiateté, mais à l'avenir, mais à l'espérance, mais à l'éternité, Seigneur. Que cela occupe notre pensée, notre action et notre vision, Seigneur. Bénis ton Église et permets ton Église de se relever. Quelles que soient les tempêtes qu'elle a subies, Seigneur, elle reste debout. Parce que toi-même, tu es dans la barque et tu apaises les tempêtes. Comme tu l'as fait avec tes disciples. Tu as ordonné seulement d'un seul geste à la tempête de se taire et de se calmer. Et la tempête s'est calmée. Seigneur, et personne, oui, personne, n'a été touché, Seigneur. Bénis encore ton Église et que toute tempête soit menacée et que, Seigneur, ta paix, l'harmonie, la confiance et la paix règnent dans ton Église pour qu'elle puisse porter du fruit à ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.